Rollis TV, bonjour Mathieu, avec un seul T à l'antenne et bienvenue à cette soirée de lancement. Mais ce n'est pas n'importe quelle soirée de lancement car il s'agit de la cérémonie et la soirée de lancement de Célestopol 1922. On pourrait même presque dire, vu le thème du jeu, la cérémonie. Alors à mes côtés, donc il y a du monde, vous avez vu. Alors, on va commencer à l'étage avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Donc Emmanuel Chastelière, de son nom entier, c'est bien cela, et qu'on en connaît d'ailleurs sous d'autres horizons.
Oui, bah, je suis également Gilles Hossein, pour ceux qui connaissent un peu, qui s'intéressent à la fantasy, notamment via le site elbakin.net. Et puis je suis traducteur, auteur, un peu tout.
Traducteur de tout petit roman de fantasy, mais absolument, voilà, qui tiennent en 20 pages hein, à peu près.
Oui, oui.
Et puis évidemment, tu es donc l'auteur de Célestopol, et puis donc de Célestopol 1922, et puis on a parlé aussi sur Rollis TV 10 000 C, je ne sais jamais comment le prononcer, qui est ton dernier roman, ça m'arrange, et qui était un excellent moment de lecture. Bonjour à tous ceux du chat, c'est un horaire un petit peu plus, un peu moins tardif que d'habitude. Alors, juste en dessous de moi, il y a Julien. Bonjour Julien, donc toi tu es fait partie de ceux qui ont mis la main dans le Sélénium et dans le cambouis pour mettre en système, comme je te disais, hors antenne, le monde d'Emmanuel.
Oui, tout à fait. Ouais. On a travaillé avec Simon, notamment, pour essayer de proposer un système qui permet de faire vivre Célestopol dans toute sa complexité, dans toute sa richesse et sa profondeur. On essaye de proposer quelque chose.
Et puis, ils sont là devant leur cadre, ils ont réglé leurs problèmes de chat, ils sont là en diagonale par rapport à moi. Donc, il y a entre et monde, donc, c'est-à-dire Colline et Simon, comment allez-vous tous les deux?
Bonsoir, bah, ça va très bien.
Ouais, ça va très bien, bonsoir à tous.
Donc, on va faire un... Ceux qui n'ont pas forcément, parce que évidemment, comme tu le disais, Simon, c'est un nouveau projet. Je vais vous proposer de regarder la bande-annonce qui a été faite donc par vos soins de notre donc de Célestopol. Et puis on a Stéphanie qui dit coucou, pledge fait direct.
Merci voilà. Stéphanie. Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, maintenant, le jeu de rôle, il n'y a pas à dire, hein, ça change bien des choses quand on fait ces grandes... Là, je suis sur la page, mais pour l'instant, je la retire. Alors, Célestopol, c'est une sacrée histoire, et je ne résiste pas, je te l'ai envoyé, Emmanuel, tout à l'heure. Je vais vous donner un petit peu certaines coulisses sur Rollis TV. Nous sommes le 16 mars 2021. Et j'écris, après avoir lu Célestopol, à Emmanuel, j'aime beaucoup, on retrouve tous les personnages donc, du premier volume, ça ferait un terreau de jeu de rôle, et ça serait vraiment un très très bon truc. Et puis à la fin, Emmanuel écrit, ah oui, c'est vrai que ça serait bien, mais malheureusement, je ne connais pas grand monde dans le domaine du jeu de rôle, et voilà, bon, ben, je crois que ça y est, tu as trouvé ta maison maintenant. Alors, très rapidement, Emmanuel, comment pourrais-tu, on a vu cet univers, donc c'est le symbole, parce que ça se passe dans la Lune, bien entendu, mais est-ce que tu peux en quelques phrases nous expliquer ce monde, et puis surtout l'origine, comment ça t'est venu cette idée-là?
Je vais commencer par l'origine, tout simplement. Alors, à la base, j'avais été contacté, j'étais encore très jeune auteur, on était en 2015-2016, j'avais été contacté pour participer à une anthologie steampunk, en fait, voilà, et avec carte blanche, si ce n'est qu'il fallait que ce soit du steampunk. voilà, ce n'est pas de parents de garde-fous ou de thématiques autres que le genre lui-même. Et en fait, j'ai assez vite eu une idée. Parce que moi, j'aime beaucoup les villes imaginaires. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Voilà, que ce soit, on en trouve chez Pratchett, chez Jana Mieville, enfin des cités, on en trouve beaucoup. Et en fait, j'avais envie de mettre une cité au centre de mon intrigue. Et en steampunk, bon bah c'est souvent Paris ou Londres. C'est,
bon, oui.
Très régulièrement, mais après c'est de très belles villes, hein, c'est pas le souci. Mais j'avais envie de quelque chose un peu différent, ce qui est devenu un peu la marque de fabrique, je trouve, de l'univers en général. Et je m'étais dit, bah tiens, il y a quelque chose qui est pas souvent utilisé, ou à ma connaissance même pas du tout, c'est vraiment un peu slave, russe en l'occurrence. Et puis je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, et si on délocalisait la ville sur la Lune, sachant que bon voilà, c'est quelque chose qui m'a, enfin là, l'exploration spatiale, même si je suis plus fantasy que SF en tant que lecteur, mais l'exploration spatiale, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment toujours fasciné. Et du coup, ben, c'est venu un peu comme ça. Et pour décrire rapidement l'univers, je dirais que c'est justement quelque chose. Sestopol, c'est un peu à la croisée des genres. Il y a un peu de fantasy, un peu de science-fiction, un peu de fantastique. On peut mixer un peu le tout, voilà, pour aboutir à quelque chose qui est un peu cet esprit punk qu'on retrouve dans le steampunk, mais qui est un peu, voilà, j'ai trouvé récemment, c'est peut-être de l'art déco punk, mais après on peut mettre ce qu'on veut derrière les étiquettes. Mais disons que c'est plus avancé que technologiquement que ce qu'on rattache en général au steampunk, parce que c'est plus la vapeur qui anime.
Oui. Alors dis-toi.
Oui.
C'est plus la vapeur. Il y a quelque chose, d'ailleurs, je ne sais même plus si on le voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. On parle donc du sélénium. Quel est donc ce sélénium? Parce que c'est bien beau une ville dans la Lune, mais comment qu'on fait, monsieur?
Bah, c'est là qu'en fait, on bascule dans l'Uchronie, évidemment, puisque ce qui réunit un peu toutes les facettes de Sestopol, je pense, c'est le côté uchronique, puisque bah, notre histoire a suivi un autre chemin, on va dire, à partir des années, en gros, 1830. Et Sestopol est une ville qui a été bâtie autour de 1850, donc on était sur la Lune beaucoup plus tôt que dans notre monde, après la découverte justement du sélénium, qui est une espèce de minerai, gaz, voilà, on peut l'exploiter de différentes façons, mais qui est tout simplement une source d'énergie beaucoup plus efficace, voilà, que le charbon, le pétrole, etc. Et c'est là-dessus que la ville assoit sa puissance et sa domination, ce qui a abouti aussi en fait à qu'on se retrouve avec une cité qui est très en avance, encore plus en avance technologiquement sur son temps que le fait d'être déjà sur la Lune pourrait laisser penser.
C'est pas mal.
Et une cité qui est aussi largement peuplée d'automates, donc on peut penser, mettons, je sais pas, à Metropolis, ce genre de référence, donc de quelque chose de, j'irai pas jusqu'à Blade Runner parce que là ça serait s'avancer un peu dans la chronologie, mais en tout cas c'est un peu cet esprit là quoi. Certains sont quasiment indissociables, impossible à distinguer plutôt des êtres humains. Et après bah c'est des questions aussi qui m'ont toujours intéressé, c'est à partir de les questions de, bah en plus on est en plein dedans ces temps-ci, l'intelligence artificielle, mais avec à partir de quel niveau on peut parler d'être conscient, etc. Voilà, et ce que ça implique derrière. Donc, et tous ces automates, entre autres, sont eux aussi animés par le sélénium, qui est un peu la source d'énergie magique de.
Donc, alors, il y a deux volumes. Donc, oui. Le premier ici, alors c'est toujours ma blague, le deuxième c'était le mien, donc c'est celui que Colin a. Voilà, donc alors ce sont des nouvelles, hein, on le précise bien, ce sont des nouvelles avec des personnages qui sont des personnages récurrents, et ce qui est bien aussi c'est que c'est, il y a des gens, on trouve de tout dans la ville, hein, ça sera les parvenus, les arrivistes, les élites qui sont déjà installées, et donc je l'ai montré tout à l'heure, et donc ça fait partie d'ailleurs de la souscription. Désolé, on est tous recouverts hein, cette fois. Voici donc la ville de Sestopol. Oui, il y a Simon qui arrive à faire coucou. Voilà, et là aussi, si vous voulez, il y a une main. Bonjour. Alors voilà, vous avez... voilà, ici, on va par là. Et C'est donc, alors oui, c'est une très très belle carte, et c'était, alors, c'était une des belles surprises quand arrive ce Célestopol 1902, c'est qu'il y a une carte qu'il n'y a pas dans le premier, et carte de Hakae, donc monsieur Sanfilippo. Alors ça s'est passé comment cette histoire de, c'est toi qui t'es dit, il faut rajouter une carte absolument?
Oui, c'est un peu ça en fait. Enfin, absolument. Non, mais c'est vrai qu'en imaginaire, il y a souvent des cartes. Alors, le plus souvent, c'est à l'échelle d'un monde ou d'un continent, surtout en fantasy. Mais là, je trouvais que une carte se prêtait bien au recueil, parce qu'en fait, effectivement, on peut essayer de repérer où étaient les personnages dans telle ou telle histoire, voir si l'auteur s'est planté quand il dit qu'on peut aller de point A à un point B mettons une heure et demie, par quel canal, parce que, voilà, c'est une cité avec des canaux, hein, sauf que les canaux sont remplis de brume de sélénium et pas d'eau. Mais voilà, et puis c'est vrai que je cherchais qui pourrait bien illustrer cette carte, et très vite, voilà, Olivier s'est imposé comme quand même une référence du genre. Il a eu la gentillesse d'accepter le projet, alors qu'il était déjà très occupé, hein, comme d'habitude et comme beaucoup de monde. Et c'est vrai que j'étais vraiment très content qu'on puisse l'ajouter dans le recueil, et puis du coup que même la carte puisse avoir une nouvelle vie avec le jeu de rôle. Mais c'est vrai que c'était un petit plus sympa de la trouver dans... Alors, bizarrement, pour l'anecdote, certains lecteurs ou lectrices parfois ne se rendaient pas qu'il y avait une carte, parce que comme elle est dans le rabat, il fallait... Ouais, ça m'est arrivé d'avoir droit à ça comme anecdote. Mais voilà, donc c'est... J'étais très content de retrouver la ville telle que je l'imaginais. Alors en 1922, hein, c'est pour ça qu'il reste un peu de place sur la carte. On peut construire des bâtiments, mais oui, c'était. Enfin, moi, les cartes en tant que lecteur, je peux m'en passer, mais bon, quand il y en a une et qu'en plus elle est très belle, ma foi, c'est toujours un plus agréable.
Et puis c'est bien parce que y a aussi des cartes en tant que lecteur où il y a des endroits mais qui ne sont pas mentionnés sur la carte, donc tu es en train de perdre ton temps, en train de te
dire ce
que c'est. Ça va pour la ville, c'est que c'est plus rétréci. Alors là, on parle justement, donc nous sommes au premier étage, on va un petit peu parler à l'étage d'en dessous, parce que c'est là où Colin et Simon interviennent. Et comment donc le jeu arrive, mise en relation, toc toc, on est parti. Et là, comment est-ce que vous dites, bon, on a deux bouquins, comment est-ce que j'en fais un jeu?
En fait, quand ça a été les premières discussions qu'on a eues ensemble. Quand tu veux faire un jeu de rôle, il faut trouver un point d'attaque, en fait. Il faut imaginer ce qu'on va incarner et ce qui va regrouper les joueurs ensemble aussi, quelque chose qui va les rapprocher. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous, on a toujours aimé, avec Simon, dans les jeux de rôle, faire vraiment des personnages, des points centraux, et pas se dire juste, voilà, c'est un univers, dans cet univers, il y a des gens, ils vont se rencontrer parce qu'ils vont se retrouver dans une taverne, et on ne sait pas pourquoi ils sont ensemble, mais le destin va les forcer à être ensemble. Moi, je trouve que ça, c'est très bien quand tu fais des bouquins, parce que le destin peut faire que. Quand c'est un jeu de rôle, je trouve que c'est un peu plus compliqué de forcer les joueurs à être ensemble. Donc, du coup, voilà, c'est imaginer le point d'attaque dans lequel tu vas rentrer dans cet univers-là. Et c'est vrai que Célestopol, c'est un univers qui est extrêmement riche, qui est à la fois, il y a vraiment quelque chose un peu de surnaturel, il y a de la politique dedans, il y a de l'aventure, il y a vraiment plein de choses très différentes. Donc du coup, ça a été un peu le premier point sur lequel on s'est penché, qui a évolué évidemment, hein, mais qui était, ok, comment on imagine des joueurs qui vont se retrouver ensemble, pourquoi ils vont se retrouver ensemble à vivre des aventures dans Célestopol, quoi.
Ouais, et puis la volonté d'éditer, de créer un jeu de rôle avec Emmanuel et après Julien, ça a été aussi à la lecture tout simplement des nouvelles. En fait, c'est vrai qu'on est, on s'est tout de suite, comme toi, Mathieu, du coup, on s'est tout de suite imaginé un univers de jeu de rôle à l'intérieur du du recueil de nouvelles à l'intérieur des nouvelles. Justement, je pense que ce côté très fragmentaire justement des nouvelles amène aussi cette espèce de réflexion sur le jeu de rôle, côté mosaïque, comme on peut travailler. Et du coup, ça nous est assez vite sauté aux yeux, en fait, je pense, de se dire, ouais, faire une adaptation en jeu de rôle de Célestopol, c'est bien parce qu'on a déjà énormément de choses, en fait. Donc,
Et moi, pour ma part, je me rappelle, autant quand j'avais lu le premier, j'avais trouvé ça très très bien, mais enfin, je dois vous dire, c'est quand j'ai eu le 1922 et que j'ai vu la carte, et tout de suite la carte. Alors en plus, bon, c'était Akei, alors c'est vrai que bon, quand tu connais le jeu de rôle, bon, Akei, tu le connais, quoi. Mais tout de suite, ça a ouvert les écoutilles. Et puis là, tu dis, mais ouais, mais c'est vrai, mais il y a ça. Et on a différents types de niveaux. Et donc, vous décidez de faire cela. Et là, c'est Julien qui entre en scène. Vous avez vu qu'on fait une sorte de boucle là. Et donc, Julien, toi, on te dit, tiens, il y a un livre. Voilà.
Ouais. Alors, en fait, c'était plutôt un heureux hasard. Parce qu'en fait, quand on discutait d'autres choses avec Simon, je ne sais plus à propos de quoi on parlait. Mais du coup, voilà, le projet devait être un peu dans les bacs déjà chez Entremonde avec Emmanuel. Et du coup, Simon m'a dit, ouais, on aurait besoin de quelqu'un, on a un projet. Au début, c'était assez vague. C'était Belle Époque, voilà, un peu de surnaturel, etc., steampunk. Et finalement, le projet, très vite, s'est révélé être Célestopol. Et en fait, moi, j'avais dans ma pile à lire, il y avait 1922 que j'avais acheté, genre, je sais pas, j'avais dû le recevoir deux, trois semaines avant. Il était sorti quelques temps avant, je crois. Et moi, j'avais déjà lu, en fait, l'édition que tu as dans les mains, Mathieu, chez Libretto, j'avais déjà lu à sa sortie, mais je crois qu'il est sorti en 2017, celui-ci, j'ai dû le lire dans l'année d'après, un truc comme ça, 2018 peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, bah oui, moi, j'avais beaucoup apprécié l'univers, j'avais bien aimé le style d'Emmanuel qui me plaît beaucoup, et puis voilà, les personnages, la richesse, moi ce qui m'a accroché en fait dans les nouvelles, et j'en ai déjà parlé avec Emmanuel et Entremonde, c'est que ce que j'apprécie, moi, c'est le non-dit, tout ce qui est à deviner, tout ce qu'il y a, oui, tout ce qu'il y a dans les ondes, tout ce qu'il y a dans les silences, de ce que Emmanuel développe dans ses intrigues, et qui t'oblige, toi, en tant que lecteur, à aller essayer de voir par-delà les apparences, voir derrière ce qui se...
Des allusions, à des événements, ou des allusions à des personnes, puis c'est juste...
Exactement. C'est ça. Ouais. Et puis, il faut être... Et puis, voilà, pour comprendre les tenants aboutissants, il faut suivre l'intrigue, il faut vraiment s'y intéresser et lire entre lignes. Ça, j'avoue que j'avais vachement apprécié, entre autres choses.
Et alors... On va passer au jeu en lui-même. Alors d'abord toute une petite question. Donc salut Pierre Rosenthal qui nous fait l'amitié de venir là. Tu peux aller sur YouTube. Hein. YouTube, c'est là où il y a le plus de monde. Alors je vais commencer. Bien. Pierre, quand il pose une question, on va répondre. Alors la première question, c'est il n'y a pas de palier PDF qui a été
Jamais chez nous, c'est une règle qu'on se fixe avec Colin, puisque très très souvent les œuvres qu'on fait sont mises en PDF, les livres de base sont mis en PDF gratuitement quelques temps après l'édition du livre de base généralement. Donc en fait, on propose généralement pas de palier PDF sur nos campagnes de financement, parce que généralement on propose le PDF après gratuitement ou à prix très 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 bas. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pour faire vivre le jeu aussi, c'est important pour nous. Donc non, mais jamais sur nos jeux de palier uniquement PDF. On aime bien en fait laisser la possibilité aux gens d'avoir des beaux livres, ce qui sera le cas avec Célestopol pour le coup,
oui,
vu la couverture, et du coup aussi que les gens puissent voir aussi le travail éditorial qui est fait sur l'objet, et du coup c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, d'avoir cet objet en main et ce livre en main. Voilà.
Alors l'autre chose également, donc là on va passer sur le financement lui-même. Donc on précise, le financement a commencé il y a 21 minutes, donc voilà, on fait les débuts ensemble. chez Entremonde, donc on avait le système de jeu de Knight, on avait The Heist qui était un autre système. On aime bien changer de système de jeu. Quel est, très rapidement, Julien, le système de jeu que tu as choisi pour donc le Célestopol?
Alors en fait, on en avait parlé en amont donc, quand on a voulu, quand on a établi le cahier des charges par rapport au système avec Simon. Simon était assez intéressé par le système de Blades in the Dark. Alors, c'est, je crois que c'est le système, c'est Forge in the Dark, je crois. Voilà.
Non, il y a Blades donc, aussi.
Ça a été une inspiration importante pour créer Anomaly. Je me suis aussi pas mal inspiré d'un système qui n'existe pas encore, qui s'appelle le système Engrenage, et qui est en fait plus ou moins le système des crimes. Le jeu, la V2 des crimes, voilà. Ça a été les deux influences principales pour essayer d'avoir une base et de, voilà, extrapoler et apporter une originalité pour correspondre à Célestopol.
D'accord. Bon, on va attaquer. Je vous propose de regarder. Je vous propose de regarder la ville en LM. Alors, Julien qui pose une question sur le pack Selenium, pourquoi pas avoir mis les deux romans. On va répondre à tout ça, bien entendu. Alors, je vais juste remonter. Donc, la première chose, c'est une campagne qui va durer 26 jours. Mm-hmm. Donc, on est dans les formats plutôt longs au niveau des campagnes. Et on voit donc on a tout cet univers de Célestopol. Alors, Je reviendrai sur la couverture tout à l'heure. Voilà, vous avez déjà. Donc, on va aller directement sur les cinq points qui sont là. Donc, un univers original à la croisée des années folles et de Jules Verne, un système qui incite les personnages à occuper le devant de la scène, l'adaptation d'une œuvre primée et reconnue par la presse, un développement du monde par Emmanuel Chastelier lui-même et une version de luxe à ne pas manquer qui forme une gamme complète. Alors ça, c'est la question que je voulais poser, c'était la gamme complète, c'est-à-dire que il y aura rien d'autre qui viendra après.
S'il y a autre chose qui vient après, ce sera quelque chose, on en avait discuté, on avait effleuré ça avec Emmanuel et Julien, ce sera quelque chose de différent, peut-être à une autre période de Célestopol, peut-être on verra, mais dans tous les cas, nous ce qu'on voulait, c'est quelque chose j'ai envie de dire confiné, mais j'aime pas le mot, d'assez réduit, pour avoir de quoi jouer, et du coup, beaucoup de paliers sont débloqués, si pas mal de paliers sont débloqués, on devrait avoir déjà beaucoup de quoi jouer, on devrait en tout avoir déjà de base deux scénarios, plus la campagne, les braises de Prométhée, donc ça fera déjà beaucoup de contenu. Et à côté de ça, comme d'habitude, chez Entremonde, on rajoutera du contenu gratuit tous les trimestres pour le jeu qui prendront sans doute la forme de scénarios. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir vraiment une gamme complète et fermée, voilà.
Alors Pierre qui nous dit qu'il avait une amie, Camille, qui lui a fait jouer sa version de Célestopol il y a 3 ans. L'univers était très sympa. Alors, c'est la question que je voulais te poser, Emmanuel, parce que tu as écrit le contenu supplémentaire par rapport aux nouvelles. Donc là, on pourra dire que c'est vraiment du canon de chez Canon. C'est quoi, comment est-ce que c'est quand tu dois écrire pour du jeu de rôle par rapport à écrire pour des nouvelles?
Là encore, pour être honnête, j'ai pas encore attaqué la phase écrire pour du jeu de rôle au sens scénario. Donc, oui.
Je parlais même pas des scénarios, je parlais vraiment du monde, de l'univers, de ce que tu rajoutais en plus.
Moi déjà, ça m'intéressait beaucoup parce que faut savoir que l'univers compte déjà un wiki, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments justement historiques de lieux, etc. Donc j'ai déjà tout réuni dans un wiki qui a plus de 400 entrées, je crois. Donc là, je pense qu'avec le jeu de rôle, ça va grimper largement. Mais en fait, sur la phase d'écriture, j'ai essayé sur les conseils de Colin et Simon, c'était vraiment d'essayer d'éviter. Voilà. Mon idée, c'était que d'apporter des informations, mais qui restent utiles dans le cadre du jeu, c'est-à-dire que il faut que l'univers puisse être vraiment autonome, parce que l'idée, c'est que même si on n'a jamais ouvert Célestopol 1922, le recueil, c'est qu'on puisse avoir. C'est que en fait, pour moi, il faudrait qu'un une joueuse ou un joueur soit sur le même pied d'égalité en fait que qu'un lecteur ou une lectrice qui est pas de voilà que on soit aussi autant immergé en fait que selon le, qu'importe le support. Et donc là, c'est vrai que
je mets le lien du wiki et je te félicite Emmanuel d'avoir pu me le donner tout en parlant. Bravo.
Oui, bah, c'est pour ça que désolé si je me suis un peu embrouillé. Oui, au niveau de l'écriture pure, après, moi, c'est un de mes univers. J'ai eu la chance d'avoir écrit déjà dans plusieurs univers au cours de mes différents romans, parce que j'aime bien varier aussi. Mais je pense que c'est Stopol, c'est celui auquel je suis le plus attaché et celui dans lequel je replonge le plus facilement. Donc, oui.
Est-ce qu'il y a des moments quand tu es repassé dessus, tu t'es rendu compte que tu avais des petites erreurs de continuité ou est-ce que tu avais des idées que finalement, des idées où en les creusant, tu disais, ah ben bah, finalement, elle est meilleure que ce que j'avais trouvé dans la nouvelle. Ça t'est arrivé, ça, vu que c'est pas la même approche de création?
Oui, bah en fait, ça peut. L'avantage, c'est que ce travail de réflexion, en fait, permet de débloquer pas mal de choses. Bon, il y a des idées de scénario. Bon, peut-être certains scénarios seraient plus adaptés. Ça permet de faire le tri, en fait, entre ce qui est le plus adapté au support jeu et ce qui est le plus adapté au support nouvelle. Parfois, on peut adapter. Certaines nouvelles peuvent s'adapter telles quelles. Mais Julien en parlera mieux. Enfin, pas telle quelle, mais on peut adapter une nouvelle. Julien en parlera mieux que moi. Et puis parfois, certaines histoires, bon, elles sont vraiment faites pour un support plutôt qu'un autre. Et des petites erreurs, oui, mais c'était plus dans le. C'est plus par rapport au premier recueil où j'avais moins bossé, on va dire, à mes bases scientifiques. J'ai un peu honte. Mais j'avais déjà corrigé pour 1922 pas mal de petites erreurs, notamment sur la durée du jour lunaire, qui est un peu flou, on va dire, dans le premier, alors que dans le second, au moins, c'est carré.
Mais, voilà, vous l'avez. Et dans le jeu, il y a même, on va voir les détails, il y a même un dé qui indique la position de... Là, c'est... Attention, on prend en grade. Hein.
Oui, pas à faire. Non, mais en tout cas, c'est un exercice vraiment super plaisant.
Donc, j'aime beaucoup le mot d'entremonde, le mot de Julien. Une des choses, on est habitué à chez Entremonde d'avoir William Bonnetal il est sur le projet.
Non, William n'est pas sur le projet puisqu'il a déjà beaucoup de travail sur d'autres projets déjà avec nous. Le pauvre. Donc là, il croule un peu sur le travail avec nous, que ce soit sur Paria ou sur Spectre. Donc là, on l'a laissé tranquille pour Célestopol, même si on aurait adoré l'avoir. Et du coup, on travaille avec Bastien Gèze pour tout ce qui est gros splash art, donc c'est-à-dire vraiment couverture et grosses illustrations, qui a vraiment donné une autre touche au jeu comparativement aux autres qu'on a, je trouve, et qui a vraiment donné quelque chose d'assez exceptionnel en termes d'illustration. On a même eu Loïc Musy à Octogone qui était assez époustouflé par la couverture de Célestopol, donc c'est plutôt gratifiant. Voilà.
Par la ressemblance. Trop petit. On va revenir dessus. on fera peut-être un sondage là avec tous les. Alors, Julien, donc toi, tu as ton petit mot également qui est mis. Tu es vraiment le monsieur mécanique dans cette histoire.
Hein. Oui. Alors, encore une fois, on a tout débroussaillé ensemble avec Simon qui a été de très bons conseils, qui m'a permis aussi de faire des choix un peu stratégiques pour pas partir dans tous les sens et voilà, se recentrer, avoir des bons conseils. C'est vrai que Simon, il a son expérience et Colline aussi, bien sûr. On a travaillé plus en étroite collaboration avec Simon sur ce dossier-là, avec Colline sur d'autres choses. Mais du coup, oui, le but, en fait, on est assez vite tombé d'accord sur le fait qu'on voulait un système qui n'était pas trop complexe, un système assez simple et facile à prendre en main pour essayer de favoriser la narration de manière générale autour des tables, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un jeu qui permet de faire la part belle à l'interprétation, l'improvisation, qui a un peu tendance à se faire oublier autour de la table. C'était un peu l'idée. Et c'est là que c'est autour de ce travail-là que l'idée du dé de la Lune, que tu mentionnais tout à l'heure, est arrivée.
Alors, on va arriver justement au tarot, parce que serait l'édition Entre Mondes sans un jeu de tarot, quand même,
hein. Toujours, hein. Ça ne change pas. Jamais.
Donc, hein, Juncker, on a bien ta question. Donc là-dessus, on va en parler. Il y a juste un petit point pour aussi que chacun se mette un petit peu dans l'ambiance. Tout à l'heure, Emmanuel, tu disais qu'on peut jouer des automates. Et on peut également, si vous le voyez à la couverture, il y a un ours. Et est-ce que tu peux dire, qui d'ailleurs a un rôle qu'on retrouve dans une des nouvelles, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette part de l'univers?
Je m'y colle, oui.
Oui,
je crois que ça va être toi, oui.
Ok. Oui, bah, en fait, c'est ce que l'ours, en l'occurrence, c'est un clin d'œil effectivement au recueil, parce que c'est un des personnages récurrents, Wojtek, qui est donc un mercenaire et qui fait équipe avec Arnrun, donc la jeune fille blonde au-dessus sur la couve, ce sont un duo de mercenaires, d'enquêteurs, voilà, qu'on retrouve au fil de certaines nouvelles, parfois au premier plan, parfois en arrière-plan, hein, c'est un peu l'avantage justement du concept de recueil de nouvelles. Et oui, Wojtek, c'est un ancien soldat qui a été tué par un ours et dont le cerveau s'est retrouvé dans l'ours en question. Donc c'est un peu particulier, mais d'ailleurs c'est assez spécial, j'en conviens. Mais c'est un peu la touche, pas dire Marie Shelley, mais
oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Donc,
mais disons que c'est là, voilà, c'est là où on est effectivement. C'est un peu, comme je disais, c'est l'illustration en fait du côté un peu kaléidoscope de l'univers où on a différentes influences. Certains textes sont très marqués par les légendes slaves, d'autres ont quasiment pas d'imaginaire dedans, d'autres sont. L'ordre sur la SF, voilà.
Et donc, toujours pour commenter cette couverture, le personnage du milieu, que représente-t-il? Je n'ai pas dit qui, hein, j'ai dit que représente-t-il.
Il représente la figure tutélaire, j'ai envie de dire, presque de la ville. Hein. Il représente le duc Nikolaï, qui règne sur Sébastopol depuis 1900. Et qui est un personnage assez mystérieux dans le sens où il est à la fois, il y aurait presque un peu des côtés. Alors c'est le fils de l'impératrice de Russie avec qui il est en conflit larvé, puisque Sébastopol a été construite comme une espèce de vitrine, voilà, de la perle de l'empire, en somme. Et sauf que le duc, lui, se verrait plus indépendantiste. Donc voilà, et c'est une figure un peu. Là aussi, je dirais, il a des facettes sombres et des facettes plus lumineuses, mais on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui.
Et c'est ce qui amène justement tout cet aspect politique.
Oui, effectivement.
Que l'on peut avoir, parce que maman, elle a de la suite dans les idées, elle aussi, donc elle ne va pas se laisser faire. Et il va y avoir du monde qui peut monter. Donc c'est pour cela. On reviendra quand même, ce sera la dernière question pour cette couverture. Alors on a également donc Julien qui pose la question. Pour ceux qui ont lu les nouvelles, est-ce que c'est facile à lire, je pense, du Pierre Bordage, ou est-ce que c'est un peu soutenu façon Jules Verne? Alors bon, Emmanuel, tu ne vas pas forcément être le mieux placé pour répondre, mais oui, la question, c'est que ça va être très facile à lire, et puis c'est aussi très soutenu. Enfin, le vocabulaire ne trahit en aucun cas la... Enfin, voilà, le vocabulaire est en adéquation avec l'époque. Julien, je pense que tu dirais la même chose.
C'est très facile à lire.
Moi, il y a un truc en plus particulier avec Sébastopol, et je remercie aussi beaucoup Emmanuel pour ça, c'est que ça m'a vraiment réconcilié aussi avec la lecture. J'ai tendance à lire énormément de manuscrits ou de projets, ce genre de choses-là, et du coup à lire pour le travail, pour le coup. Et c'est vrai que lire plaisir, sur Célestopol, ça a vraiment été un truc que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, ouais, c'est assez facile à lire. Et le format de nouvelle est très agréable parce qu'on n'a pas cette sensation qui peut arriver sur des romans, notamment, qui peuvent faire 500 pages, qui, au demeurant, peuvent être très bien aussi, hein, d'avoir cette parfois difficulté à continuer la lecture. Moi, ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le format de nouvelle, c'est ce côté, on peut avoir un tout en lisant 25 pages, 30 pages, 50 pages, peu importe. Et ça m'a vraiment réconcilié avec la lecture fictionnelle pure et dure. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a d'ailleurs voulu, moi en tout cas, voulu éditer Célestopol, c'est que je trouve que ouais, l'écriture est vraiment géniale, ouais, complètement.
Et il y a plein de références, je trouve, qui sont des références à la réalité ou des références détournées parfois ou des références à des domaines de l'imaginaire qui font que, en fait, même s'il y a une nouvelle qui ne te touche pas pour une raison X ou Y, parce que le sujet ne te touche pas, tu peux te retrouver à la nouvelle d'après avec un effet en mode c'est fou, quoi. Et du coup.
Si tu as besoin d'y aller, Emmanuel, hein, tu peux, je peux couper le son s'il y a quoi que ce soit.
Tu peux le couper juste 10 secondes.
Non, t'inquiète pas. On va
faire des mythes.
Voilà. Et oui, il y a des appels comme ça. Oui, tu as tout à fait raison, Colline. Et surtout, c'est que c'est très kaléidoscopique aussi dans le nombre de personnages qu'on va voir. Il y a des personnages récurrents, mais on a toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça, Juncker, je pense qu'on peut répondre à la question que non, il n'y a pas besoin d'avoir lu les nouvelles. En précisant, ce sont deux recueils de nouvelles. Le jeu va se suffire à lui-même. Et on a eu cette question, donc, et on est en plein dessus. Le dé de la lune, à quoi sert-il? Et puis, donc, s'ils ne sont pas débloqués, est-ce qu'on peut quand même jouer? Donc, Julien, oui.
Oh, pardon, excuse-moi, vas-y, Julien.
Non, allez-y, de toute façon.
Vas-y, Simon, tu peux commencer. Hein.
Okay. Pardon, désolé, de temps en temps. Oui, on peut parfaitement jouer avec. En fait, le dé de la lune aura sa correspondance dans le jeu par rapport au D8 traditionnel. Donc, chiffré de 1 à 8. Hein. C'est plus sympa de l'avoir autour de la table pour le côté ambiance et influence de la lune sur les personnages et sur la table de jeu. Et c'est la même chose pour les tarots. Hein. Un tarot standard, on va dire, suffit pour jouer, même si celui-ci a été spécialement illustré pour Célestopol. Mais comme d'habitude avec nos jeux, on n'a pas de besoin vraiment de matériel autre que le livre de base pour jouer. Ce que tu trouves dans le livre de base va suffire, en fait. Le reste, c'est pas du goodies, parce que c'est le j'aime pas le mot, mais c'est de l'aide de jeu, vraiment, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour aider le jeu. Et le dé de la lune, en particulier, est très sympa à utiliser, parce qu'il a ce côté très, très joli. Donc,
c'est un système, là, c'est écrit, c'est 2D8, on doit faire plus. Mais quel est pourquoi est-ce que j'ai le dé de la lune et d'où vient cette influence?
Alors, Je peux y aller si tu veux, sinon c'est comme tu préfères. En fait, le truc, c'est que en travaillant sur les bases du système, on s'est rendu compte que le chiffre 8 était assez pertinent quand on parle de la Lune, puisqu'il y a les 8 phases de la Lune. Et donc, en fait, de là, on a un peu extrapolé le chiffre pour le retrouver. En fait, le chiffre 8, il va être un peu en filigrane sur l'ensemble à la fois du système et peut-être même au-delà. Et du coup, l'idée avec le dé de la Lune, c'était de pouvoir s'approprier un peu le principe de oui, mais, oui et, non et, voilà, pour teinter un peu les réussites et les échecs, et apporter un peu de narration, apporter un peu d'aléatoire aussi. Et voilà, le côté un peu destin, c'est qu'on va trouver dans Célestopol, dans l'univers et dans le système. Et donc voilà. Et notre but, c'était de le rendre pas forcément, c'était de ne pas rendre ce dé-là juste comme voilà un accessoire un peu annexe ou vide de sens. Notre but, c'était de vraiment de pouvoir lui donner un impact fort dans le système. Donc le D8 et les 8 faces, en fait, ça vient directement des 8 faces de la Lune. Voilà.
Et alors, il y a un autre concept, il y a le concept du spleen. Et là aussi, est-ce que tu peux l'expliquer pour les personnages?
Alors, le spleen, en fait, c'est quelque chose qui ressort pour ceux qui auraient lu ou qui vont lire les nouvelles d'Emmanuel. Comme disait Colline, c'est pas en permanence, on le retrouve pas systématiquement dans toutes les nouvelles, mais c'est quelque chose qui transparaît à certains moments. Voilà, ce spleen ou voilà, on pourrait le traduire par mal de vivre un peu, ou une forme de mélancolie en tout cas. Dans l'univers de Célestopol et dans le système Anomalie, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, le système, le spleen a une importance parce qu'il peut venir marquer les personnages joueurs et, ce faisant, enlever leur lien avec la ville et en particulier avec le Sélénium. En fait, il y a un lien particulier entre les personnages qui vont être joués et le Sélénium, qui est cette matière dont on parlait, un peu spécifique.
On parle ici dans les anomalies de la sensibilité au sélénium qui change un petit peu.
Exactement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Non, mais c'est exactement ça. Et donc là, justement, je vais reposer la question. Donc, Simon l'abordait un petit peu. Donc, à quoi sert le tarot pour pouvoir... oui, si on est condamné à être malchanceux, si on est malchanceux au dé, on est condamné à devenir Baudelaire, presque. le tarot informe, donc, par exemple, l'utilisateur sur le passé, le présent ou l'avenir d'une personne. À quoi sert finalement le tarot dans le jeu?
Alors, il va servir à plusieurs choses. Il va servir déjà parce qu'il y a, parmi les anomalies, il y a le tarot divinatoire. Qui est aussi très présent dans les nouvelles, on entend en parler. Donc, il va avoir une utilité pour ça. Il va avoir une utilité aussi pour influer sur la narration en cours de jeu, avec un principe de cartes à tirer aléatoirement au début de scénario que les joueurs peuvent choisir de saisir ou pas, qui va pouvoir influencer le scénario en cours. Il y aura une formule qui va être proposée en fait dans le livre de base, qui permettra, avec un tirage aléatoire de 8 cartes, donc on retrouve encore 8 cartes, de 8 cartes, tirer les cartes pour pouvoir, en associant ça avec une table aléatoire, de générer des pistes de scénario. Voilà, pour faire des choses un peu sur le pouce. Et puis il y a le concept de barrage Sélène, le barrage de la lune, qui va être une espèce de pool une ressource commune à l'ensemble des joueurs, qu'ils vont pouvoir utiliser aussi, et qui, un peu à la manière d'une horloge de l'apocalypse, va au fur et à mesure que les cartes sont retournées, en fait, peut déclencher des événements particuliers qui vont secouer la ville dans son ensemble. Voilà. J'en dis pas plus.
Tout goudou. Alors, on voit l'écran qui est là. Après, on va passer sur les paliers. Alors, on ne le voit peut-être pas justement à l'écran, mais il y a un journal qui parle et qui écrit « Mort aux têtes d'écrou », parce qu'évidemment, quand on est un automate, on n'est pas forcément bien vu par tout le monde.
Oui, tout à fait. Hein. C'est un des sujets de friction en ville. Hein. C'est aussi un moteur narratif, aussi bien pour les nouvelles que pour le jeu. C'est le statut des automates et comment certains humains peuvent se sentir justement menacés, tout simplement même dans leur travail. Hein, voilà. Et justement, comme je disais tout à l'heure aussi, cette dimension-là, presque... tout ce qui touche à la conscience même, voilà, qu'est-ce qu'un être doué de conscience, et voilà, c'est quelque chose qui m'importait aussi bien dans l'écriture que pour le jeu. Je pense que c'est une des caractéristiques de Célestopol, un peu comme cette mélancolie ambiante, en espérant que pour les joueurs, ça finisse mieux que la plupart des nouvelles. Mais oui, les automates jouent un rôle important, et c'est ce qui fait que, justement, je trouve aussi qu'on est un peu à la frontière des genres et que c'est finalement assez inclassable comme univers. Bon, en tout cas, c'était mon but.
Alors, justement, donc on a Junker qui demande, est-ce qu'on peut jouer des automates? Donc là, vous avez répondu oui. Mais d'autres races, donc on précise que, alors, si, des ours, mais il n'y a pas d'extraterrestres, en fait. Hein, y a pas de, on est,
non, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de. Il n'y a pas de.
Voilà. Non. Donc, Julien nous demande si la ville est complètement décrite dans le livre avec son lot de PNJ d'importance, hein, comme Dark Earth première édition, ou est-ce que ça, c'est à nous de la peupler en tant que maître de jeu ? J'aime ces silences.
nous, c'est une volonté toujours dans ce qu'on propose, c'est de faire habiter effectivement les lieux par des gens, parce que c'est très très important. Même dans d'autres souscriptions, on me fait même illustrer des PNJ par des illustrateurs. Donc c'est vrai que c'est une volonté, et le wiki Célestopol est déjà bien fourni de base sans le jeu, lui-même en personnage, avec je sais plus combien de personnages entrés. Et du coup là, le jeu se garnira de personnages supplémentaires, évidemment, hein, qui vont peupler la ville. Donc non, il n'y aura pas vraiment à peupler la cité. Ou alors, il faudrait vraiment pas trouver ce qu'on cherche. Voilà, il y aura déjà des factions, 8 factions, hein, c'est ça, normalement, dans la ville. Oui. Voilà, il y aura beaucoup de protagonistes, enfin beaucoup de personnages secondaires. Donc il y aura déjà de quoi faire.
Alors, on va attaquer justement à ce fameux quoi. Donc, le pack standard, donc, c'est à 69€. Donc, le livre de base, plus l'écran, donc, qui est dedans. Alors, je n'ai pas vu. Il y a la possibilité d'avoir juste le livre de base ?
Ouais, en option, tu peux prendre juste le livre de base, tout court.
Donc, c'est l'option à 1€, et puis après, dedans, tu choisis le livre de base. D'accord.
Le livre de base, ouais, tout court, tout à fait.
Alors, on a le pack de luxe. Qui est le pack pour jouer avec, comme on dit, intérieur cuir et condamnation centralisée des portes. donc, on a le livre de base, l'écran, la campagne, on va revenir dessus. Ouais. Et puis, va s'ajouter le jeu de cartes s'il est débloqué, la carte, le dé de la lune, l'étui de la gamme, 5 livrets du joueur et également 5 prétirés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la campagne en elle-même, les braises de Prométhée, toi Emmanuel d'ailleurs, qui parlait d'un côté très Shelley avec l'histoire de l'ours.
Oh bah pour la campagne, pour l'instant, j'avoue que c'est plutôt Julien le maître d'œuvre. Moi, j'étais... Non mais c'est... Je le dis, c'est la vérité. Hein, moi, je suis pas forcément là pour comment dire. Je laisse de la liberté en fait à. Dit comme ça, ça fait très prétentieux, mais je laisse de la liberté à mon co-auteur. Donc, pour le coup, Julien est arrivé avec une idée assez précise de ce qu'il avait envie pour la campagne. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, donc je lui laisse les rênes là-dessus. Il n'y a aucun souci. Après, moi, je suis comme pour le reste. Moi, je suis juste là pour dire ça, c'est pas très Célestopol dans l'esprit, mais et être chiant. En gros, c'est mon rôle. Mais pour la campagne, je pense que Julien peut peut-être en dire deux mots mieux que moi, en tout cas.
Alors, il y a pas de. Juste pour dire que c'est très agréable, hein, de travailler avec Emmanuel, et il est pas du tout aussi chiant que ça. Au contraire, enfin, moi, j'apprécie beaucoup de. Justement, c'est un vrai confort en fait en tant qu'auteur d'être avec l'ayant droit numéro un qui a les clés de la ville pour le coup, littéralement. C'est vraiment très agréable. À côté de ça, Simon, Colline, qui sont toujours de mon conseil et qui répondent à nos interrogations diverses. Mais la campagne, effectivement, c'est moi qui vais l'écrire. C'est en cours. Le synopsis, on l'a créé en commun avec Emmanuel. On a soumis tout ça à Entremonde et tout est validé pour l'instant. L'idée, ça va être dans la campagne de vivre les événements qui mènent jusqu'à des grandes grèves en fait, qui ont secoué la ville. Ces grèves-là sont d'ailleurs mentionnées à au moins une fois, peut-être même deux, peut-être un peu plus, dans les dernières nouvelles de 1922. On parle de ces grèves-là, qui des grèves ouvrières, du coup. On est plus sur l'aspect sociétal de Célestopol, moins surnaturel, mais sociétal. Mais peut-être que la dimension surnaturelle est au centre ou plus ou moins périphérique de cet aspect sociétal qui va donc émerger et qui donc est mentionné dans les nouvelles. Mais voilà, donc l'idée c'est de faire vivre aux joueurs ces événements-là en amont. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché ces événements-là pourquoi est-ce qu'ils ont été déclenchés, comment. Et bien sûr, les joueurs vont avoir un rôle majeur à jouer pour tenter d'influer sur ces événements-là.
Alors, est-ce que justement, donc on a donc ça c'est pour la campagne, et effectivement, ça, ce genre, on sent que ça va courir dans tous les sens. Alors, j'ai une question que je vais reprendre sur de Juncker qui dit: quel est le degré de technologie permis et que donne le Selenium par rapport à la vraie technologie de 1922, mis à part le fait qu'on puisse aller sur la Lune et survivre?
En fait, il y a plein d'inventions qui étaient, comment dire, des prototypes ou qui étaient envisagés dans les années 20, mais qui n'existaient pas, qui existent déjà en fait à Sébastopol. Mais après, c'est vrai que c'est plus, je me suis amusé aussi avec des choses qui ont existé, hein, comme le théâtrophone, le fait de pouvoir décrocher un combiné dans sa chambre et d'écouter l'opéra en direct qui se déroule à côté, enfin ce genre de choses. Après, bon, on a des trottoirs roulants, ça donne pas envie de jouer, mais non, on peut pas rouler sans roulant, mais on peut les joueurs peuvent se retrouver dessus. Après, voilà, je dirais que c'est il y a plein de choses, mais c'est plus des petits détails, quoi. Il y a pas d'invention majeure de notre époque qu'on retrouve il y a pas de téléphone portable en 1922.
Des gros téléphones.
Après, techniquement, il y a des casques. Il y avait des prototypes déjà à l'époque, oui, hein, de téléphones portatifs, mais c'est vrai que c'était peut-être pas...
Il ne fallait pas s'éloigner. C'est ça. Alors, on a aussi donc le pack Selenium. Alors, j'ai cherché entre les deux. Donc, la différence, c'est qu'il y a le livre qui est inclus dedans. Alors, on a eu une question, c'est pourquoi est-ce que les deux livres n'ont pas été inclus? Je suppose que c'est des questions de droit.
C'est ça, tout à fait. Exactement. En fait, c'est que comme c'était vraiment un jeu Sébastopol 1922, on avait les droits d'éditer dans cet univers-là avec les éditions L'Homme sans nom, qui nous soutiennent, hein, justement sur ce projet en proposant aussi le recueil de nouvelles.
Merci Dimitri.
et du coup, voilà, donc en fait, c'est juste une question de droits et de maisons d'édition avec qui on travaille, en fait, tout simplement.
D'accord. Et alors, donc, dans les objectifs, donc, c'est là où nous sommes. Donc, 10 000 euros, donc projet financier. Ensuite, nous avons une nouvelle inédite, donc d'Emmanuel. Ensuite, le tarot illustré arrive. Donc, pendant un moment, j'ai cru que c'était le fait d'avoir lu illustré. J'imaginais premier palier, un tarot. Deuxième palier, un tarot.
Deuxième carte de tarot.
Donc, voilà. Donc, vous aurez le tarot et les images avec. Un scénario supplémentaire par Arthur Morcan. J'espère que je ne vais pas massacrer son nom de famille dans la prononciation. Et on en arrivera donc à la carte grand format d'Olivier Sanfilippo. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Simon, sur la carte grand format? Enfin, c'est papier, cartonné, enfin sur
quel... Elle sera un peu comme, pour ceux qui la connaissent, la carte de Hong Kong, les chroniques de l'étrange. Donc, elle sera en grand format, dans un beau papier, avec un toucher assez agréable, comme on a fait sur la carte de Hong Kong. Voilà, et surtout, ça sera une carte qui sera lisible. L'objectif étant qu'elle serve aussi de support de jeu aux joueurs. Donc voilà, ça sera vraiment un bel objet aussi. Bah, tout comme les dés et le tarot, on veut aussi faire de beaux objets. Donc,
un autre dé.
Juste un petit mot, il y aura des ajouts.
Oui.
Par rapport à la carte de base.
Non, pas question.
Donc voilà.
Et on continuera donc avec donc le dé de la lune, le dé en plus, sinon précise, hein, ça se joue qu'avec des D8, hein, c'est pour ceux qui vous avez. Donc ensuite Alexandre Clavel avec un scénario supplémentaire, un étui pour la gamme. Donc je suppose que l'étui pour la gamme, c'est quand on met tu mets le jeu, tu mettras éventuellement les cartes dedans.
Tu mets les deux livres, donc le jeu, la campagne et l'écran à l'intérieur, et tout y rentre dedans, et voilà. Et ce sera un bel étui. On va essayer de le faire avec un bel effet dessus, doré ou cuivré. Donc ce sera aussi un bel objet.
avec du sélénium qui sort de partout.
Tout en sélénium.
De la poudre d'or dès que tu ouvres ton livre, ce genre de choses.
Julien revient sur la carte et il demande si ça sera du A1 comme format.
Non, ça sera
du A2.
Ça sera du A2, certainement. La lisibilité de la carte permet de faire du A2, donc c'est plutôt agréable d'avoir ça au milieu de la table. Et ça tient bien au milieu de table. A1, ça ferait un petit peu grand.
Ouais. Oui, mais ça, c'est vrai. Hein. Tu as tout à fait raison, parce que moi, je joue beaucoup avec des cartes. À un moment, j'ai fait imprimer du A1. Pour peu que tu aies le malheur. Tout le monde s'installe et ça a commencé, et puis tu te rends compte que tu n'as pas mis la carte. Dis, bon, bah les gars, faut tout ressortir, faut tout remettre.
Ah, c'est pas le truc. Le câble de 2 mètres sur 2 mètres, 1, c'est déjà trop, donc j'imagine sur une table normale.
Alors, donc, on a le livret du joueur, ça, ouais. Et on a alors une très belle initiative, la présentation narrée par un comédien de doublage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
L'objectif, comme l'écriture des manuels est très agréable à lire et aussi à écouter, pour le coup, l'objectif, c'est de faire vraiment narrer toute la partie fictionnelle de Célestopol, donc que ce soit la nouvelle inédite, si elle est débloquée, mais aussi toute la partie, je vais dire, encyclopédique et l'histoire de la cité, par un comédien de doublage. Et c'est quelque chose qu'on voulait proposer depuis longtemps sur nos gammes de jeux et qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant.
C'est très bien.
On avait les cauchemars de Paria en arrêt, mais c'est tout. Et en fait, là, on voulait vraiment avoir ce côté-là, presque livre audio pour toute la partie fictionnelle. Donc, on s'était dit que c'était un bon moyen aussi de faire en sorte que les gens puissent écouter quelque part le livre. Donc,
c'est une très très riche idée, je trouve, parce qu'on se plaint tous du manque de temps qu'on peut avoir pour jouer et tout ça. Et là, justement, on peut avoir le livre. On peut avoir le jeu autrement que en s'asseyant et en ayant son livre et tout ça. Oui, Emmanuel.
Oui, non, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve aussi que c'est une super idée. J'avais eu la chance que une de mes nouvelles soit lue par Stéphane Plateau, donc l'auteur que
c'est ça.
Connaîtront, je pense. Et c'était vraiment, c'est quand même assez. Voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même effectivement un vrai plaisir de pouvoir écouter quelqu'un compter. Voilà, ça fait un peu ego trip dit comme ça, mais en tout cas, c'est toujours agréable d'écouter une histoire justement lue par quelqu'un de talent.
Oui, tout à fait. Stéphane Plateau, c'est il y avait pire. Et donc, je vous précise. Quand je suis en train de faire défiler l'écran, je ne vous vois pas et je vois pas les commentaires parce que je suis sur l'autre page. Donc c'est pour ça que s'il y a des moments, il y a un petit décalage. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on est dans la partie des options. Et puis alors, donc la livraison est prévue, parce que c'est la grande question, pour mars 2025.
Ouais. On se laisse, comme d'habitude, un an. On ne veut pas précipiter les choses comme on le fait généralement. Voilà, on veut essayer de tenir nos délais et toujours à plus d'un des 6 mois. Hein, c'est toujours le problème qu'on peut avoir. Voilà, mais l'objectif, c'est de dire on va livrer l'année prochaine, début d'année prochaine, normalement. Et ouais, le travail étant déjà bien avancé, les illustrations commençant déjà à être posées, on commence déjà à avoir de très belles choses. On est en train de faire illustrer. On ne l'a pas encore, mais on est en train de faire illustrer aussi, par exemple, la couverture de la campagne, toujours par Bastien, qui va être aussi magnifique. Donc, on a déjà bien avancé sur le travail. Donc oui, on se laisse un an, comme toujours, de pour toute la production, pour terminer l'écriture, terminer les illustrations, la maquette, faire la prod. Généralement, un an, ça suffit. Donc voilà.
Et ce qui répond d'ailleurs à la question de l'état d'avancement, donc tout ça pendant un an. Alors, pour chevaucher des verres de sélénium, je pense que ça sera dans Célestopol 1922, deuxième partie. Et, quand on regarde l'image là, qui est mise, est-ce que Emmanuel, tu peux expliquer ce qu'est. Où se situent en fait les personnages dans cette. Et quel est cet étrange. Baleine volante que l'on pourrait voir.
Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça fait un peu baleine. En fait, on voit simplement les gens qui sont au niveau du cosmodrome. Donc c'est le spatioport, comme appelez-vous le voulez. C'est là où atterrissent en fait les soit les obus traversiers, soit les les vaisseaux comme celui-ci pour justement à l'UNIS plutôt, pas Atterris. ça commence bien. À l'UNIS où décollent les vaisseaux qui transportent les voyageurs. Et donc là, justement, on voit des voyageurs qui arrivent ou qui se préparent à repartir et à quitter la ville ou à la découvrir au contraire. Voilà, donc on est justement tout proche de Sébastopol avec la Terre en arrière-plan, bien sûr. Et voilà.
C'était important pour nous, pardon, aussi de faire illustrer des scènes de vie, en fait. Étant donné que c'est une cité avec ses habitants et que la notion d'habitants et de banalité, entre guillemets, des habitants, enfin pas de banalité, mais de, on va dire d'ordinarité des habitants de la cité, était quelque chose d'important aussi dans l'univers, parce que il y a toute ce jeu avec le spleen, où plus le spleen grandit chez un personnage, puis il retourne à une sorte d'ordinaire dans sa vie, et plus il sort du jeu, presque il sort de la fiction. Il sort du côté protagoniste de l'univers. Donc c'était aussi important pour nous de faire en sorte d'avoir des scènes de vie illustrées pour bien retranscrire aussi ça, que c'est une ville vraiment vivante, en fait. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir là on a des plans de, comment dirais-je, du cosmodrome, mais on aura aussi des plans de la ville, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est important. Et puis on adore les personnages. On aime bien les bonhommes. Donc voilà.
Est-ce qu'il y aura des fiches VTT, on vient de poser la question.
Toujours sur nos jeux, tout le temps, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des fiches VTT. C'est Zachary qui pose la question, et il connaît déjà la réponse en plus, le cocaine. Donc, bien sûr, il aura rapidement une commande. Voilà.
D'accord. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Donc, on arrive à la fin de notre heure, arrive cette dernière question. Emmanuel sort déjà à cette question. Bon, au milieu, c'est qui?
Au milieu, c'est le duc, comme je l'ai déjà dit, le duc Nikolai. Et je préfère couper court tout de suite avec cette. Je vois où tu veux en venir. Et tu n'es pas le premier, et ça m'agace beaucoup. Bien sûr, je prends ça avec le sourire. Mais oui, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que. Ah, mais le duc, ça serait pas toi. Et en fait, Bastien m'en soit témoin, il a jamais eu comme consigne de faire une version, on va dire, dérivée de moi-même. Donc non, ça fait pas partie, je me suis pas donné comme référence graphique pour le personnage du duc. Je tiens à le dire, mais voilà.
Toujours semblant, c'est fortuite, évidemment.
Oui, voilà, il va y avoir un petit mot sur tout. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un bon palier, à savoir le palier tout sur les coulisses de la couverture. un truc comme ça. Oui, vas-y.
Moi, j'avais une petite information à donner qui a quand même son importance. Dans les jours qui vont venir, il y a un kit de démonstration qui va sortir.
Oui.
Qui est fait en collaboration, et je tenais à le citer parce qu'il nous aide énormément là en ce moment sur Sébastopol, donc avec Frédéric Meurin qui est chef de projet sur le kit de démo et qui nous a aidé à créer ce crowdfunding. Donc voilà, il est en cours, il est vraiment en phase de finalisation, donc restez prêts, il va arriver très très vite. Voilà, ça c'était le...
Non, je voulais aussi répondre à la question de Junker qui disait, qui posait la question de savoir si c'était des couvertures rigides. Oui, je pensais qu'on l'avait précisé, mais c'est bien du rigide. Hein. Chez Entremonde, c'est toujours des couvertures rigides, quoi qu'il arrive.
Puis la densité en carton. Et alors, tu parlais de Colin, de Frédéric Meurin. Donc, pour les personnes qui ne voient pas forcément, il travaille sur d'autres studios. Et si vous avez vu le live avec Fabrice et Vincent, justement, il y a 2 jours, Frédéric était là. Et est-ce que Frédéric vous a, et que je salue, il vous a casé des blagues sur les bronzés ou des choses comme ça, non?
Non, je pense qu'il se retient beaucoup avec nous encore.
Ouais, c'est pour ça. Oui, moi, c'est au début, c'est qu'on l'avait dans les émissions, c'était très sérieux et tout ça. Puis au bout d'un moment, il y a deux, trois. Tiens, ça vient de tel film. Donc voilà, et c'est toujours un grand moment de qualité quand on est avec lui. Ouais, Julien, tu voulais dire quelque chose d'autre?
Non, pas particulièrement. Non. Je suis très content d'avoir participé à cette émission.
Moi, je veux bien dire quelque chose.
Bien sûr.
Je, je voulais remercier Frédéric aussi parce qu'il a été d'une grande aide pour me canaliser justement dans la rédaction de ce qui me concernait dans des parties dont j'étais responsable dans le kit. Hein. Le kit qui est franchement est vraiment bien rempli. Et il y a déjà de quoi faire, je trouve. Et franchement, j'ai hâte que les gens puissent le découvrir parce que il y a de jolies choses dedans.
Alors donc, Colin, donc tu pour en dire un peu plus sur le kit, je crois pas que tu n'as pas donné la pagination. C'est à peu près combien sur le
en termes de pagination
le kit de démarrage.
Je crois qu'en termes de pagination pure, il va faire plus d'une trentaine de pages dans mon souvenir. Ouais, enfin, je retourne au fichier là.
C'est le classique, une histoire, le système, ouais. Une histoire avec des personnages prétirés.
Un scénario, des prétirés, toujours une base de système, une base d'univers, vraiment comme on a l'habitude de faire sur tous nos kits de démonstration.
Une nouvelle.
Donc du coup, vraiment de quoi jouer une partie et vraiment pouvoir tester avant de participer, si jamais ça vous intéresse, pour ceux qui hésitent encore.
Oui, tout à fait. Et puis le côté aussi qu'on voudrait avoir avec le kit, c'est peut-être en faire imprimer un peu pour les conventions ou les salons aussi, pour que les gens puissent tester. Étant donné qu'il va être très joli, autant en avoir en papier aussi, ça peut être sympa.
Emmanuel, toi qui seras à Trolls et Légendes, et je te rassure, c'est pas la semaine prochaine. voilà. Donc, si vous êtes du côté de la Belgique et de Mons, vous pourrez voir. Alors, tu seras plus avec le livre Emile Chey ou Emile C.
Je serai avec plein de livres.
Voilà. Il y aura plein de livres et vous pourrez lui dire. Et puis, vous pourrez regarder, vous pourrez comparer de près la photo et puis la couverture. Et puis, bien évidemment, donc, c'est pendant 27 jours que que vous allez pouvoir découvrir ce grand univers qu'est Célestopol. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir passé cette heure-là, qui, je l'espère, va profiter et faire un fort joli lancement. Emmanuel, un des derniers mots ?
Oui, je tiens à remercier toute l'équipe, évidemment, d'Entremonde, de L'Homme sans nom et tous ceux qui... Julien, bien sûr, aussi. Hein. Enfin, je l'inclus dans l'équipe d'Entremonde. Et en fait, voilà, je voulais m'adresser à tous les gens qui connaissent pas encore cet univers et qui, j'espère, se laisseront tenter. Merci d'avance à eux. Et puis, pour ceux qui sont lecteurs ou lectrices et qui par contre ne font pas ou peu de jeux de rôle, sincèrement, je pense qu'il y aura aussi de quoi les intéresser, même en tant qu'objet, parce que vraiment, je sens que ça va être superbe. Et vraiment, c'est un univers qui me tient à cœur. Je suis pas sûr de l'avoir forcément toujours exprimé ce soir. Vous avez entendu ma fille derrière. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a plein de choses dedans, il y a plein de facettes à découvrir. Et cette ville, pour moi, c'est pas qu'un joli décor. Je pense que, comme Simon l'a dit, elle est vivante, et je pense que c'est ce qui a été dit aussi, un personnage à part entière, mais pas que, et que voilà, qu'elle laisse toute la place aux joueurs et aux joueuses pour s'exprimer dedans, et j'espère qu'ils se laisseront aussi tenter par une visite dans ces rues. Voilà.
Qui sont relativement sûrs dans certains quartiers.
et moins dans d'autres, mais ça, bon.
Ça. Julien, un dernier mot ?
Non, moi je voulais dire aussi, oui, effectivement, que il faut, si les nouvelles ne sont pas indispensables pour pouvoir, la lecture des nouvelles n'est pas indispensable pour pouvoir jouer à Célestopol 1922 JDR, je vous recommande quand même vivement d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les quelques pages qu'Emmanuel a écrites, parce que vous allez avoir une belle surprise. N'hésitez pas à aller lire les nouvelles.
Puis encore, c'est pour Colin et Simon, c'est une nouvelle aventure, un autre univers encore. Exactement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, d'aller dans tous les univers possibles, imaginables. Il nous manque un bon jeu de fantasy qui fait mal. Et après, vous aurez quasiment fait la boucle.
On fait en fonction des opportunités et nos coups de cœur aussi. Le gros intérêt qu'il va y avoir avec ce projet-là, c'est que ça va être un projet auquel on va pouvoir se consacrer vraiment énormément, puisqu'on va avoir beaucoup plus de temps à s'y consacrer. Contrairement à Night Chronique de l'étrange, on avait un travail à côté, c'était du travail de week-end. Et là, maintenant, on va vraiment y consacrer tout notre cœur et tout notre temps et toute notre charge mentale. Donc, le principe, c'est d'essayer de faire que chaque projet soit encore meilleur que le précédent.
Ouais, toujours s'améliorer.
Et d'aller vers une qualité toujours plus grande. Forcément, ouais. Nous, on gagne aussi en compétences, on gagne aussi en œil acéré et on espère faire des œuvres qui compteront quoi.
Ouais, complètement. Je pense que pour ceux qui connaissent déjà bien l'univers de Célestopol et les nouvelles, etc., l'ensemble qui a été écrit par Emmanuel et qui sera encore écrit par Emmanuel et Julien dans le livre de base servira aussi d'encyclopédie. Donc, si vous connaissez l'univers et que vous n'êtes pas rôliste nécessairement, comme le disait Emmanuel, ça peut servir aussi effectivement d'encyclopédie pour l'univers et pour la ville, comme guide touristique de la ville de Célestopol. Donc il y a toujours ce côté aussi à prendre, ne serait-ce aussi qu'en tant qu'objet, hein, évidemment, qui sera un bel objet de la gamme Célestopol pour le coup. Voilà.
Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et puis, ne l'oubliez pas, avec Célestopol, vous pouvez jouer et vous pouvez voir un lever de terre bien avant Apollo 8. Et ça, quand même, rien que pour ça, ça vaudra le coup. Un grand merci encore à vous. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dans le chat. Tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles. À très, très bientôt.
Bye bye.
Salut.